Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée. Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 18 juin. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau, l'association SOS Loire Vivante ERN France vous informe. L'eau est un bien commun à partager, mais les quantités disponibles varient selon les années, les saisons et les endroits. Aujourd'hui, le défi est de s'adapter au changement climatique et aux épisodes de chaleur, sécheresse et inondations de grande ampleur que l'on nous annonce. Les hommes doivent s'organiser et anticiper. Nous vous proposons aujourd'hui deux rencontres, la première avec Pascaline Cousin de l'Adréal Centre et la deuxième avec Jacques Seimert, président de l'association Sauvegarde de la Loire-Angevine.
Pascaline Cousin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au chef du service Loire, bassin Loire-Bretagne de l'Adréal Centre. Alors face à ces défis, ces manques d'eau qui risquent d'arriver, pour que chacun ait de l'eau, il faudrait donc d'abord revoir nos besoins et favoriser les économies d'eau.
Oui, tout à fait. La première mesure à développer en matière de gestion de l'eau est sûrement celle des économies d'eau. Et pour faire ces économies, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il s'agit de revoir nos besoins afin d'éviter tout ce qui est gaspillage d'eau, mais également de rechercher une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau.
Alors quel genre justement de solutions, de nouvelles pistes peuvent être envisagées, envisageables?
On peut citer par exemple pour les collectivités tous les travaux qu'elles peuvent mener sur les réseaux d'eau potable. D'autres mesures sont également envisageables pour économiser l'eau et surtout pour garantir une meilleure efficacité d'eau. Par exemple l'irrigation en période d'été, qui se fait de préférence le soir pour éviter l'évaporation.
Alors une fois qu'on a réalisé ces économies d'eau et qu'il n'y a toujours pas assez d'eau pour tous les usages, on parle d'augmenter les ressources en eau. Comment fait-on pour augmenter les quantités d'eau disponibles ?
Par augmenter les ressources en eau, on entend plutôt optimiser l'utilisation de l'eau sur une longue période, par exemple sur une année, en prélevant dans les milieux de l'eau lorsqu'elle est plus abondante pour la stocker, pour ensuite l'utiliser en période sèche. Donc en réalité, on n'augmente pas la quantité d'eau disponible, mais par contre, on l'augmente au moment où elle est en manque, c'est-à-dire pendant la période sèche.
Alors est-ce que stocker l'eau l'hiver dans des retenues vous semble une bonne solution ?
Seulement sous certaines conditions. Et il faut notamment veiller à ce que ces prélèvements hivernaux ne soient pas préjudiciables au milieu et à leur vie. Il y a aussi une question de coût. Il faut estimer si le jeu envoie la chandelle, notamment par rapport à d'autres solutions comme de nouvelles économies d'eau.
Alors pour stocker l'eau, les milieux naturels et aquatiques n'ont-ils pas également leur rôle à jouer, on pense, aux zones humides ?
Oui, tout à fait. Les zones humides jouent un rôle majeur dans la régulation des milieux aquatiques et dans la régulation de la quantité d'eau.
L'aménagement du territoire peut-il jouer un rôle pour la gestion quantitative de l'eau ?
Alors oui, en matière de gestion du risque d'inondation, l'aménagement du territoire est un axe d'intervention publique très important et c'est sûrement un axe d'intervention qui est à renforcer. Il faut développer des politiques d'aménagement du territoire qui permettent de faire en sorte que le renouvellement urbain favorise un urbanisme qui soit plus adapté aux inondations et qui permette, après un événement, le retour à la normale le plus rapide possible.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'actions publiques qui réduisent le risque d'inondation ?
On pourrait citer le cas de la ville de Blois qui a été amenée à reconquérir tout un territoire qui avait été urbanisé et qui se trouvait dans une zone inondable. La ville de Blois, avec l'État, a été amenée à aller reconquérir ce territoire-là pour détruire finalement les habitations sur place et rendre ce territoire libre pour permettre l'écoulement des eaux lors des crues de la Loire.
Aujourd'hui, les hommes continuent d'apprendre à vivre avec les crues et les inondations. Est-ce qu'on peut dire que les erreurs d'hier créent les solutions de demain ?
Ben oui, en tout cas, il faut l'espérer, hein. Même si c'est loin d'être évident, car il n'est jamais facile de revenir sur une pratique qui est quelquefois extrêmement ancienne.
Pouvez-vous nous donner un exemple d'aménagement catastrophique en zone inondable qui a donné lieu à des plans de gestion qui fonctionnent bien actuellement ?
Ben, à ce jour, les derniers événements marquants sur le bassin Loire-Bretagne en termes d'inondation sont sûrement les événements liés à la tempête Xynthia. Ces événements, ils ont donné lieu à des prises de conscience, car force a été de constater qu'un certain type d'urbanisme implanté en bordure de côte n'était pas du tout adapté à la présence de ce risque de submersion marine. Par exemple, des lotissements avec des pavillons de plein pied derrière une digue qui peut céder. On sait aujourd'hui que c'est une solution complètement inadaptée face au risque d'inondation. Et en fait, la conscience du risque, elle s'amenuise parce que la digue apporte un sentiment de protection, alors que la digue, comme tout ouvrage, peut être amenée à être dépassée par un événement qui est plus fort que les événements connus par le passé et pour lesquels elle a été dimensionnée.
Finalement, comment fait-on pour mieux prendre en compte le changement climatique dans la gestion de l'eau ?
Bien, en fait, c'est un débat que devra avoir le comité de bassin, notamment dans le cadre de la révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux actuelles. Mmh. Et il s'agira de prendre des orientations nouvelles sur le sujet pour définir des mesures de gestion de l'eau afin de nous adapter au changement climatique.
D'accord, donc c'est une prise de conscience qui avance et maintenant reste à trouver un consensus et des solutions qui arrivent à contenter tout le monde.
Oui, ensuite toute la question est celui du niveau auquel on place le curseur en fait. Mmh. Les solutions, on en connaît certaines, notamment sur les économies d'eau. La question ensuite, c'est de savoir comment on fait ces économies d'eau et quelles sont les contributions apportées par chacun des acteurs, les industriels, les collectivités, les particuliers, les agriculteurs, etc., etc. Tous ces gens sont des membres du comité de bassin. Le débat doit permettre de faire émerger un consensus sur l'effort qui sera demandé à chacun.
Merci beaucoup, Pascaline Cousin.
Merci à vous.
Au revoir. Alors au sein du réseau Loire Vivante, l'association Sauvegarde de la Loire-Angevine milite et agit pour l'environnement et les milieux aquatiques. Jacques Zemert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Sauvegarde de la Loire-Angevine. Alors vous avez constaté que les quantités d'eau prélevées en Loire pour l'irrigation agricole du Val d'Authion, près d'Angers, sont beaucoup trop importantes. En quoi ces prélèvements d'eau en Loire portent préjudice à l'environnement et au système hydrique de la Loire ?
Bien, d'une manière générale, les besoins en eau pour l'irrigation ont toujours lieu l'été, c'est-à-dire au moment où les rivières sont au plus bas. Les prélèvements d'eau pour l'irrigation de la vallée d'Authion, il en existait déjà depuis longtemps. Et puis, à partir de 2005-2006, était lancée une grosse opération qui consistait d'une part à faire une nouvelle station de pompage en Loire et d'autre part à mettre en place dans la vallée proprement dit un réseau de distribution d'eau sous pression destiné, soi-disant, à remplacer les prélèvements d'eau par des forages profonds dans le Cénomania. Donc on est passé, après des solutions alternatives différentes, à des débits qui correspondent actuellement au maximum à 3,3 mètres cubes par seconde en plein été. Donc on va consommer beaucoup plus d'eau pour l'irrigation que pour une agglomération en eau potable de 270 000 habitants.
Alors quelles sont les conséquences de cette captation sur la qualité de l'eau et du système hydrique ?
Selon que l'on est avec un débit plus ou moins important dans la Loire, parce que le débit de la Loire, c'est quand même quelque chose qui peut varier pour les très grandes crues de 6000 mètres cubes par seconde à 52 mètres cubes par seconde.
Oui, donc c'est l'été que ça a les plus grandes conséquences et c'est l'été en plus que l'agriculture pompe cette eau.
Exactement.
Alors c'est quelles sont les conséquences ?
Les conséquences, c'est que d'une part, on va participer encore en plus à la diminution du débit d'eau dans la Loire. Et d'autre part, on va surtout transférer dans un bassin de culture, l'irrigation, qui va lessiver des excès d'engrais, de pesticides, etc.
Donc c'est une concentration des pollutions.
Concentration des pollutions dans le bassin de l'Authion.
D'accord. Alors vous avez parlé également d'une nappe profonde du Cénomania. C'est une eau fossile qui est présente depuis plus de 90 millions d'années sous la Terre.
Oui.
Alors quelle est la problématique autour de cette nappe ?
Le Cénomania est considéré et réservé dans le cadre du stage comme étant un usage prioritaire pour les eaux potables. C'est une réserve pour préparer l'avenir finalement. Et il est formellement interdit normalement de pomper dans le Cénomania pour tous les autres usages sauf l'eau potable. Or, en l'occurrence, l'irrigation est faite en partie par des pompages profonds dans le Cénomania.
D'accord, donc là on se retrouve dans un conflit entre l'usage pour l'agriculture et pour les besoins en eau potable.
Oui, un conflit qui provient finalement d'un manque de rigueur dans la gestion de l'ensemble du système. Un manque de rigueur dans ce qu'on consomme en prélèvement superficiel, manque de rigueur de ce qu'on pompe en nappe profonde. En fait, c'est un système qui a été mis en place, la technique du toujours plus, l'agriculture a toujours plus de besoin d'eau.
D'accord.
Ce qui n'est pas tout à fait justifié. On peut dire deux mots sur ce sujet d'ailleurs.
Ouais.
Parce que on a tout fait de dire aux gens que l'agriculture a besoin d'eau. Nous ne sommes pas fondamentalement contre l'eau pour l'irrigation. Mais il faut utiliser cette eau pour des cultures à forte valeur ajoutée. Il faut en même temps utiliser ces lots avec des techniques d'irrigation économes, le goutte à goutte dans certains cas, l'utilisation et l'arrosage plutôt la nuit qu'en plein été à 14h. Et puis surtout, il faut changer un certain nombre de pratiques culturales, parce que cultiver du maïs fourrage dans la vallée de l'Authion et l'irriguer pour qu'il pousse, ça frôle le scandale, parce que là, on gâche de l'eau, et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est aussi un changement culturel des agriculteurs. Un certain nombre d'agriculteurs ouverts sur l'avenir ont commencé déjà à changer ces pratiques culturales en disant, bon, avant j'étais à 90% en maïs, bon, bah, je vais revenir à la prairie naturelle pour 50%, et je poursuis avec 50% ou 45% de maïs. Ben, il faut encore aller plus loin et revenir sur l'utilisation de sorgho, de luzerne.
D'accord. Est-ce que ça a un coût, le prélèvement de l'eau pour l'irrigation? Ça a un coût public majoritaire? Et qui soutient ces coûts?
Ben, grosso modo, il y a 70% du financement qui a été assuré par les collectivités territoriales, départements, régions, fonds européens, États. C'est donc finalement le contribuable qui participe à un investissement considérable qui, pour la mise en place des pompages sous tuyaux, concerne 60 exploitants.
Jacques Zemmert, merci. Bonne continuation dans vos combats pour défendre donc ce système hydrique du Val d'Authion.
Nous essaierons de défendre la bonne cause.
Parce que votre avis compte, participez à une consultation publique sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques en répondant au questionnaire à votre disposition sur le site internet prenonssoindelleau.fr. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante ERN France avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.